Africa. Tout feu, tout foot, l'émission 100% foot, présentée par Lamine Badiane sur Africa Radio. Africa.
Salut à tous, nous voilà donc fidèles au rendez-vous du lundi avec votre émission Tout feu, tout foot, qui, comme chaque fois, va retracer toute l'actualité du football africain en Afrique et partout ailleurs. Ce soir, au menu de la... de Tout feu, tout foot, bien sûr. Le nouveau calendrier des compétitions de la CAF. Ensuite, nous parlerons des championnats européens et enfin des brèves pour conclure l'émission. Et avec moi ce soir, le doyen Willy Dorkono.
Ah, bonsoir c'est... coach, bonsoir tout le monde, bonsoir Hélène, bonsoir Hakim. On est là, comme d'habitude, tout prêt.
Ouais, comme les lundis, quoi.
Ouais, tout prêt pour en découdre.
Mais exactement, comme hier. Hakim Djelouat, bonsoir Hakim, il est avec nous. Eh ben, qu'est-ce que vous avez à ne pas ouvrir vos micros là ? Hakim, il nous entend ? Bon, ben, quand il va nous entendre, dis-le. Et on fait un coucou à Christian Chango, toujours en vacances. Le Vénard, bien sûr, et une mise en onde, bien sûr, d'Hélène Bizio qui est là aujourd'hui avec nous.
Plein feu sur les championnats africains sur Africa.
Donc, messieurs, nous commençons cette émission avec le nouveau calendrier. On essaie de régler quelques petits problèmes techniques, bien sûr, vous l'auriez compris. En attendant d'avoir notre cher ami Hakim Djelouat. Et comme il l'avait promis, doyen Willy, ouais. On va parler, bien sûr, du calendrier de la Confédération africaine de football.
Le football, ouais.
Il fallait s'y attendre, ça a changé, aussi bien chez les filles que chez les garçons. On va commencer peut-être avec les demi-finales, parce qu'on attendait les dates de ces demi-finales. Les demi-finales de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération qui ont été reportés d'un mois,
ouais,
à cause de la pandémie de Covid-19. Donc ça a été ce 10 septembre et ce n'était pas une surprise. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Oui, pas une surprise, c'est pour protéger la... C'est par rapport... C'est des décisions sanitaires, donc il n'y a aucun problème. Moi, on doit les suivre parce qu'on ne maîtrise pas la situation pour l'instant. Donc s'il faut changer à chaque fois, il faut changer.
Rappelez-vous que les lieux n'avaient pas changé. Hein. Je pense qu'on avait parlé du Maroc et puis de l'Égypte. Hein. Donc, on va essayer de voir en attendant qu'on puisse régler des problèmes techniques avec mon ami Hakim. Les principes des demi-finales donc sont maintenus, ouais, avec aller-retour entre le Maroc et l'Égypte. Et malgré le contexte sanitaire dans le pays, ces matchs initialement prévus le 25 et le 26 septembre aller et le 2 et 3 octobre retour se tiendront donc les 17 et 18 au Maroc,
ouais,
le 23 et 24 octobre en Égypte. Quant à la finale, envisagée aux alentours du 16 et 17 octobre, elle se disputera le 6 novembre dans un lieu à définir.
Et sur un match ?
Ouais, et sur un match.
Ouais.
Et quant à la saison 2020-2021 des compétitions interclubs, elle débutera le 27 novembre. Est-ce qu'il est là avec nous, Hakim Djelouat ?
Oui, bonsoir à toute l'équipe.
Décidément.
Je crois que ça marche, hein ?
Ah, ça y est.
Ça fonctionne. Super.
Ça y est, c'est bon.
Génial.
On vous entend.
Écoutez, un grand coucou à vous, hein, à tout le plateau, à Woody, coach Lamine, à Hélène Bizio à la réalisation. Un grand coucou à Christian qui nous écoute et surtout tous les auditeurs qui nous écoutent depuis la France et le continent, notre cher continent africain. Oui, coach Lamine, effectivement, la coupe des clubs hein, africaines qui a été une fois de plus reportée. Comme vous avez pu le souligner, les demi-finales et finales de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération, coach Lamine, ont été reportées d'un mois. Et comme vous l'avez souligné, en raison de la pandémie de Covid-19, de ce virus hein, qui continue effectivement à sévir à travers le monde entier. Selon la Confédération africaine de football, coach Lamine, l'information effectivement a été donnée et on l'a dit, c'est pas tout à fait une surprise puisque la fin des Coupes d'Afrique des clubs 2019-2020 n'aura pas lieu aux dates qu'ils avaient annoncées, Willy, le 3 août dernier. Ouais. La Confédération africaine de football a décrété effectivement ce report de un mois des demi-finales et de la finale de la Ligue des Champions, ainsi que pour les demi-finales et la finale de la Coupe de la Confédération. Tout simplement en raison de cette pandémie de Covid-19, coach Lamine, et c'est pour ne pas prendre de risques, mais surtout pour mieux préparer ces compétitions, afin qu'il n'y ait pas de surprise le jour J pour ces compétitions par rapport à cette pandémie.
Alors, on va rappeler quand même les demi-finales. Qui joue contre qui? D'abord, le Wydad de Casablanca du Maroc,
oui,
qui joue contre Al Ahly, et ça, c'est la première demi-finale. Et la deuxième demi-finale, Raja de Casablanca contre le Zamalek d'Égypte.
Bis repetita, encore une fois, une affiche eh bien, marocaine-égyptienne. Donc, Raja Casablanca, effectivement, et contre le Zamalek. On le rappelle, le Wydad Casablanca qui s'est séparé de son entraîneur Garrido. Donc, ça ne va pas être une partie si simple. En attendant, il y aura effectivement un entraîneur par intérim. Je ne sais pas si cela a été confirmé. En tout cas, au sein du Wydad, ça chauffe un petit peu, mais ils vont se préparer tant bien que mal face à cette équipe et cet ogre égyptien. On le rappelle, le club le plus capé du monde, bien sûr, devant le FC Barcelone, El Ahly, club égyptien. Ça va être, en fait, ce sont tout simplement, coach Lamine, des demi-finales aux allures de finale. Mmh. Si on regarde bien, le Raja, effectivement, a déjà rencontré le Zamalek, que ce soit en huitième ou en quart en Ligue des Champions africaine ou en Coupe de la Confédération. Et si on regarde effectivement cette affiche Wydad Casablanca et El Ahly sur ces cinq dernières saisons, coach Lamine, Willy Dorkonou, ouais, ce sont des clubs qui ont réussi à effectivement rejoindre le stade des finales. Donc ça reste de superbes affiches aux allures de finale.
Oui, des habitudes de la compétition. Donc on le connaît, ça. Même toi, tu as réduit ça à 5 ans. Mais depuis le début du football africain, ces deux ont toujours été là.
Alors on rappelle que les demi-finales retour se joueront le 23 et le 24 octobre en Égypte. Hein. Alors la technique, elle est magnifique. Hein. Alors qu'on pensait que ce monsieur est en vacances au bord de la mer, et puis finalement on a réussi à le joindre. Donc ça veut dire
on
que
on peut travailler en pleine vacances.
Non, il est là où est-ce que les joueurs du PSG étaient là? Comment ça s'appelle?
Ah, ouais, mais à Marseille.
Ibiza. Ouais, bonsoir Christian Chango.
Salut coach, bonsoir Willy, salut Akin.
Ah bonsoir. Ben, il a le sourire.
Ben oui, dis donc,
un gros coucou.
Quel temps il fait là où vous êtes? Ici, il fait à peu près moins 5.
Ah ben nous, il fait beaucoup trop chaud et avec les masques et tout, mais là il fait beaucoup beaucoup trop chaud les gars.
Mmh. Ouais, c'est normal, la chaleur est due à autre chose. Donc,
Ah ouais, bah ça c'est normal, hein. Tu sais, on est perdu hier soir, donc bon, c'est compliqué. Hein.
C'était pour fêter la victoire du Paris Saint-Germain hier sur Marseille.
Oh là là.
Enfin, on y reviendra. Alors, rapidement, Ligue des Champions, Christian Chango. Demi-finale, allez, oui. 17-18 octobre au Maroc. Wydad de Casablanca du Maroc, Al Ahly d'Égypte. Raja de Casablanca, Maroc, contre Zamalek. Et les demi-finales, le 23-24. Ça aussi, ça a été encore une fois reporté. Et on arrive donc à cette situation où réellement le Covid est en train, ou bien la Covid, hein, est en train de vraiment bouleverser tout un programme par rapport à cette année. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde essaie, tant bien que mal, de jouer au plus tard pour le mois de finir pour le mois d'octobre.
Exact, coach. Hein, on a vu encore une fois. De toute façon, c'était prévisible hein, que ça allait sûrement être décalé par rapport aux dates qui étaient convenues. Et on a vu donc la demande hein, de la fédération de football marocain, qui a demandé à décaler à nouveau les dates suite aux évolutions sanitaires, notamment avec les soucis au niveau du trafic aérien au Maroc et par rapport aux recommandations de la commission d'organisation de la CAF. Donc ça a été à nouveau décalé, donc il y a eu glissement comme tu l'as bien précisé, et on n'est pas à l'abri encore que d'ici un mois, puisque c'est dans un mois maintenant que c'est décalé, on n'est pas à l'abri encore qu'il y ait un glissement. On n'espère pas, on espère que ça va aller un peu mieux, mais on n'est pas à l'abri. Décidément, cette saison de Ligue des Champions et de Coupe de la CAF, elle va être dure à finir.
Autre compétition qui a été reportée, c'est cette finale de la Coupe des Confédérations, Hakim.
Oui, la finale de la Coupe de la Confédération africaine également a été décalée, coach Lamine, et ceci effectivement en raison, on le rappelle, hein, de la Covid-19. Ceci tout simplement pour mieux préparer ces compétitions-là. Et si la Confédération africaine de football présidée par Ahmad Ahmad a décidé effectivement ceci, c'est tout simplement, comme on l'a dit, hein, une question pure et simple d'organisation, coach Lamine. Alors on sait qu'il y a les présidentielles de côté CAF, donc le président Ahmad va se préparer, mais effectivement
votre ami Ahmad Ahmad,
le cher ami de coach Lamine et de Woody Dorkenou,
notre ami,
et donc les demi-finales de la Coupe de la Confédération auront lieu le 19 et 20 octobre au Maroc. Pour la première affiche, ça sera Pyramide FC, encore une fois un club égyptien. Cette année l'Égypte est forte en coupe de club, donc face au club Oroya AC, donc de la Guinée. Ça aussi, ça va être une affiche aux allures de finale, coach Lamine Badiane, avec une autre affiche. Cette fois-ci, ça sera du 100% marocain. C'est la Renaissance Sportive Berkane, où figurent notamment beaucoup de joueurs du continent africain, notamment de l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique de l'Ouest. On a aussi Hassania Agadir. Donc, belle affiche entre le Maroc, pour le Maroc dans cette Coupe de la Confédération et cette demi-finale. Renaissance Sportive Berkane contre Hassania Agadir. Donc les matchs allés 19 et 20 octobre, et la finale, ça se passera effectivement le 25 octobre.
Alors,
du côté du Maroc.
Quelles leçons tirées par rapport, Doyen, par rapport à ce football? Parce qu'on voit quand même qu'il y a environ 4 équipes marocaines. Hein. Est-ce que c'est le Maroc qui domine l'Afrique? Est-ce que c'est l'Égypte aussi qui, lui, en a 3? C'est quand même quelque chose de positif, ou c'est un championnat
plus le championnat est sérieux, plus les bonnes équipes se dégagent de ce championnat-là. Donc on a vu que le Maroc, avec la Botola, est en bonne position. Et le football marocain aussi a fait beaucoup de travail qui fait que le Maroc est redevenu le grand Maroc qu'on connaissait. Par rapport à l'Égypte, eux, ils n'ont jamais baissé. Donc, c'est une grande nation de football africain. Donc, l'Égypte est considérée comme la mère même du football africain. Donc, c'est l'honneur revient au Maroc, qui a beaucoup travaillé. Parce que dans les années 90, même en 2000, le Maroc a baissé un peu. Donc, le Maroc est de retour. Ça fait longtemps qu'on le voit, même par rapport à leur problème au niveau de la CAN qu'on a vu. Ils ont fait une mauvaise CAN, mais le football marocain reste toujours au top pour l'instant. Donc bravo au Maroc, et les Égyptiens sont toujours là, et ils sont toujours au même niveau. Donc il y a des pays qui sont en baisse, donc les pays qui sont en baisse, c'est en dessous de l'Équateur, comme on dit en Afrique noire. Donc les équipes sont en baisse parce qu'il y a moins de travail aussi. Le championnat est pauvre là.
Il y a un pays quand même qui vient balayer un peu cette hiérarchie. C'est le Oroya de Guinée. Est-ce que
du boulot aussi.
Oui.
On a reçu le président de Oroya ici. Donc, comme je l'ai dit, c'est par rapport au travail effectué sur place. Donc, on a vu le boulot le travail de Oroya. Donc, s'ils sont là, ils ne sont pas là par hasard. Donc la plupart des équipes qui sont là, c'est des équipes qui travaillent énormément. Donc, mais quand je parle du Maroc, le Maroc, ils ont fait un travail d'ensemble au niveau de toute la fédération marocaine pour redorer de leur blason. Le cas de l'Égypte aussi. Mais concernant la Guinée, il n'y a qu'un club comme Oroya pour l'instant qui fait du bon travail. On a vu le président, c'est quelqu'un qui aime le foot et qui travaille bien dans ce cas-là.
Alors, Christian Chango, est-ce que pour le Oroya, qui va être privé, bien sûr, de son attaquant vedette Bansé pour ses demi-finales, et parce qu'il a arrêté, ça peut être quelque chose qui soit négatif pour ce club-là? Parce que Bansé, quand même, avait apporté quelque chose de prépondérant dans l'équipe.
Et, Exact, coach. Hein, c'est une absence quand même qui va avoir du poids. La Guinée, Oroya, pardon, en particulier, a des ressources et a les joueurs pour le remplacer. Mais c'est vrai qu'en termes d'expérience et d'apport de gestion d'un match comme ça, c'est une demi-finale, il y a un contexte particulier. C'est vrai que c'est une absence que déplorable pour Oroya. Mais ils vont devoir avancer, évoluer et aussi maintenant laisser la place à des jeunes joueurs au niveau de l'attaque. Notamment, ce sera à eux de prendre la relève d'Aristide Bansé et de continuer d'avancer. Mais c'est vrai, il faut quand même le souligner, c'est quand même une absence déplorable. On aurait aimé le voir au moins finir la compétition. Malheureusement, on connaît les conditions et après ensuite la décision du joueur, mais on aurait aimé quand même le voir continuer. Mais pour Oroya, et comme le dit Willy, très souvent, on perd un joueur, mais en Afrique et en particulier en Guinée, il y a des joueurs partout, il y a du talent, donc ils vont devoir se renouveler et continuer de grandir.
Alors, autre chose concernant toujours c'est cette demi-finale, rappelez-vous, le Oroya n'était pas tout à fait content et satisfait que les matchs se jouent au Maroc. Pourquoi le Maroc, ils ont dit ?
Bien sûr.
Parce que là, c'est dans une situation où plutôt c'est favorable aux équipes marocaines qui sont Berkane et Hassania Agadir.
Oui, mais il faut aussi savoir peut-être que le Maroc est le lieu prêt pour y jouer. C'est-à-dire qu'avec la pandémie, peut-être que le Maroc est prêt pour jouer au Maroc.
On n'a peut-être pas les chiffres, mais je ne sais pas
pourquoi on a changé le Maroc là, pour l'instant.
Ouais,
je sais pas.
Mais en tout cas, juste, il faut rappeler, dans le communiqué de la CAF, c'est vrai que le Maroc a les infrastructures et était prêt à recevoir, mais on en rappelle, je vous relis le communiqué de la CAF, suite à une demande de la Fédération marocaine aux égards des dernières évolutions, ils souhaitent donc que le reste de la compétition, la Ligue des Champions et la Coupe de la CAF soit reportée. Donc, on voit que malgré les infrastructures, la gestion de la Covid-19 pose des soucis. Et finalement, même le Maroc, j'allais pas dire qu'on pensait intouchable, puisque personne n'est intouchable face à la pandémie, mais on voit que ça pose aussi quand même des soucis. Donc, rien n'est facile pour organiser le football. Déjà, dans certains endroits dans notre continent, c'était compliqué. Là, en plus, ça rajoute de la complication pour la tenue des compétitions. On en parlera tout à l'heure, mais on voit des championnats qui ont repris en Afrique ou qui ont dû finir ont été touchés par des cas de Covid, que ce soit dans les staffs, dans les joueurs, dans l'encadrement. Donc, tout le monde est pénalisé, malheureusement.
Alors, est-ce qu'il faut confirmer que, même si on sait que les demi-finales se joueront au Maroc, pour la finale, on ne sait pas encore, parce qu'il parle de lieu à définir.
C'est ça, exactement. Pour la finale de la Coupe de la CAF, c'est quand même le grand flou, puisque pour l'instant, on a la date. On sait que ça va s'organiser. Pour la finale de la Ligue des Champions, pardon. On sait qu'il va y avoir les demi-finales du côté du Maroc, les demi-finales aller, les demi-finales retour en Égypte, mais quid de la finale, comme tu dis, coach, où est-ce que ça va s'organiser ? Quel pays va pouvoir assumer de recevoir les joueurs ? Dans quelles conditions aussi ? Est-ce que les stades seront fermés ? Est-ce que ça va être du huis clos ? Est-ce qu'on va faire rentrer quelques spectateurs, un nombre défini ? Donc il y a quand même tout un flou autour de cette Ligue des Champions africaine.
On l'a perdu.
On l'a perdu.
Hakim.
Oui, non, pour revenir sur le club d'Oroya, donc Oroya, effectivement. Reste effectivement la seule équipe guinéenne là, donc à ce stade de la compétition. Je crois qu'ils ont eu un très bon parcours. Il faut quand même souligner et rappeler qu'Oroya n'est pas ici effectivement en petit club par rapport au Wydad de Casablanca, par rapport aux Zamalek, par rapport à toutes ces équipes qui ont réussi à se hisser en demi-finale. La bonne nouvelle pour Oroya actuellement, c'est effectivement l'annonce de la prolongation de contrat de deux joueurs expérimentés, coach Lamine, que sont les joueurs Daouda Camara et également un autre international burkinabé, notamment d'origine ghanéenne, Okanse Mandela, qui lui aussi a prolongé son contrat pour une durée de 4 ans. Je crois qu'il y a une véritable envie de bien faire au sein de ce club Oroya. S'ils sont arrivés là, ils ont mis les moyens. Ça ne va pas être facile, bien évidemment, mais ça va être intéressant de les suivre et de voir un petit peu comment ils évoluent en demi-finale. Maintenant, moi, je reste confiant quant à cette équipe et quant au travail qui a été effectué jusqu'à présent par l'entraîneur du club d'Oroya.
Ouais.
Alors, autre. Oui. Autre. Décidément. Alors, autre nouvelle aussi, c'est au niveau du football féminin où il y a eu de nouvelles dates.
Oui, on a effectivement de nouvelles informations quant au football féminin. La gente féminine a l'honneur hein, dans Tout Feu Tout Foot, c'est régulier, c'est souvent. On en parle beaucoup, mais là, cette fois-ci, c'est une bonne nouvelle. La Fédération Sud-Africaine de Football, la SAFA, l'a annoncé effectivement ce vendredi 11 septembre, la semaine dernière, il n'y a pas plus tard que vendredi dernier, hein, que l'Afrique du Sud se portait candidate à l'organisation de la première édition de la Ligue des Champions Féminines. On connaît, on sait que les installations sont ne sont pas flambant neufs, mais il y a des installations intéressantes, coach Lamine, et des infrastructures footballistiques qui sont pas mal du côté de l'Afrique du Sud. La compétition, elle, on va en parler, elle se déroulera sous la forme d'un tournoi à 8 clubs, selon la Confédération africaine de football. Et la SAFA, elle a expliqué, donc la Fédération sud-africaine de football, a expliqué que cette Ligue des Champions serait une motivation supplémentaire pour les équipes qui vont participer à son championnat féminin national qui a été, on le rappelle, lancé l'année dernière.
Oui, parce que l'Afrique a fait beaucoup de progrès au niveau de football féminin. Donc, comme on le sait, c'est la fréquence des compétitions qui fait qu'il y a progression. Ouais. On l'a vu au niveau de la CAN, et chaque deux ans, c'est pour ça que j'ai eu peur de ceux qui pensent de remettre la CAN tous les quatre ans. Ouais. Ils sont fous. Ils n'ont jamais, ils savent pas ce que c'est que le sport. Ouais. Donc, c'est la fréquence des compétitions
c'est
qui fait
que... C'est super important.
Mais tout le monde le sait, si tu n'as jamais fait sport, tu peux aller faire autre chose.
Alors, juste pour préciser par rapport à la CAN féminine, ouais. La CAF, elle dit qu'elle se déroulera en 2022.
Hein, oui,
en
c'est ça.
2022.
Tout à fait.
Alors que cette compétition se déroule traditionnellement en novembre-décembre. Donc la CAN féminine 2020 a été annulée. Rappelez-vous, quand elle a été annulée, ça a été une véritable catastrophe. Oui. Tout le monde, une levée de bouclier, oui. Même de la part de la FIFA,
mais ce qui est vrai.
Pour dire que ce n'était pas normal. Ouais. Mais il n'y avait pas de pays hôte en raison de la crise du Covid.
Donc, oui, là, on comprend.
Mais c'est la raison pour laquelle ça a été reporté, même si, quelque part, donc la FIFA n'était pas très, très contente de la part de la CAF. Donc, ça veut dire que, quelque part, on est revenu à des promesses qui sont tenues.
Oui.
Bon, maintenant, parlons. Je vous propose qu'on d'abord décortique un peu ces clubs champions.
Ouais.
C'est 8.
Ouais.
Il s'agit de zones. Ouais. Il y aura des champions de zone avec donc le pays organisateur plus une équipe invitée. Donc, ça veut dire
pour un début, c'est parfait pour un début. Mm-hmm. On peut rien reprocher à l'organisation parce que c'est un début, donc à 8, comme même le cas du football masculin, ça a été comme ça. Il faut commencer à 8, on va voir ce que ça va donner, mais c'est important d'avoir des compétitions pour les jeunes femmes.
Bien sûr.
Parce que j'ai vu la progression du football féminin au niveau de l'Afrique.
Et puis elles ont
fait une progression énorme.
Ouais, et puis on a souvent effectivement tendance à dire que les femmes... ne sont pas forcément, elles ne sont pas, on va dire, au même niveau que les hommes. Mais aujourd'hui, il faut le savoir, par exemple, quand on prend effectivement la République démocratique du Congo, du côté de la AS Vita Club, on a une présidente. Du côté de la Tanzanie, coach Lamine, du côté du club tanzanien qui pourrait participer effectivement à cette Ligue des champions africaines, on a Barbara Gonzalez qui a été nominée donc au poste de présidente. Donc il y a effectivement cette avance-là du côté du continent africain. Il y a un développement qui se fait sentir dans le football féminin, mais notamment aussi dans le rôle que tiennent les femmes autour du football, que ce soit masculin ou féminin.
Oui, mais c'est normal. Quand on prend les cinq continents, l'Afrique est l'un des premiers continents concerné par le football. Donc ça, c'est clair. Tout le monde le sait. Moi, quand je vais au niveau de l'Amérique du Sud, on me le fait comprendre.
Mmh. En tout cas, retrouvez-nous au 01 55 07 58 00 si vous voulez nous donner votre avis concernant donc cette nouvelle de la Fédération sud-africaine de football, la SAFA, qui a annoncé ce vendredi dernier que l'Afrique du Sud se portait candidate à l'organisation de la première édition de la Ligue des champions féminines africaines prévue en 2021 et qui doit démarrer au début de l'année prochaine. Je pense que de toutes les façons, ils savent où est-ce qu'ils vont, la SAFA, surtout au niveau du football féminin, outre le Nigeria qui les concurrence, le Cameroun qui lorgne son nez, on a beaucoup de possibilités avec l'équipe du Sénégal.
Il y a le Nigeria aussi.
Le Nigeria, Sénégal. On a vu aussi que...
Pays hôte organisateur l'Afrique du Sud, coach Lamine, c'est important de le dire. C'est vrai qu'on a, on a beaucoup, beaucoup de femmes du côté de l'Afrique du Sud qui évoluent dans différents clubs sur le continent, que ce soit en Tanzanie, que ce soit en Sierra Leone ou dans d'autres. On a par exemple Janine Van Wyk, Willy Dorknoek, que tu connais bien, et dont on a commenté plusieurs fois avec le coach Lamine des matchs justement où elle a participé. Capitaine charismatique de l'équipe d'Afrique du Sud, qui est une défenseur tenace avec une vraie personnalité, coach Lamine, et qui apporte aussi cette touche-là féminine à travers le football. Et je pense que c'est une bonne chose en fait que la CAF s'intéresse justement au football féminin, mais pas seulement pour dire on doit effectivement équilibrer le football féminin au niveau du football masculin, mais pour donner la chance et l'opportunité justement à ces jeunes femmes de s'épanouir pleinement en tant que sportives.
C'est important justement, désolé hein, ça a coupé, c'est important que le football féminin soit reconnu, et Hakim a raison, c'est pas juste par rapport au football masculin, mais c'est pour leur donner de la place que le football féminin mérite, et surtout pour aider les clubs et a fortiori les équipes nationales à grandir. Si on n'a pas la possibilité d'organiser des matchs, d'organiser des compétitions pour permettre aux talents de se développer, le football féminin en Afrique n'avancera pas. Donc c'était une nécessité, et enfin des actions sont mises en place par le président de la CAF et toute la Confédération africaine de football pour permettre au football féminin de s'épanouir.
Le coach Lamine, l'exemple parfait, c'est vraiment celui-ci, c'est Bestine Kazadi. La fille de Monsieur Kazadi, grande légende du football africain et football congolais, qui a pris les rênes, mais elle les a pas pris comme ça. Elle a pris les rênes effectivement du club de foot de Vita Club, entraîné par Jean-Florent Mbengue, que l'on salue s'il nous écoute. Mais c'est-à-dire, elle baigne en fait dans le football depuis très longtemps. Elle s'est exprimée effectivement au micro de nos confrères et de multiples médias en disant qu'elle souhaitait apporter une touche nouvelle à sa façon pour le football congolais, pour le football africain, mais surtout relever en fait le niveau du football congolais à l'image du Vita Club ou du Mazembe, comme l'a pu faire le président. Le grand président du Mazembe.
Les femmes africaines ne sont pas étrangères au football. Et sur un continent où on aime le foot, et les hommes et les femmes aiment le foot. On a vu le progrès des femmes. On a vu le progrès des femmes. Parce que quand on prend des pays européens, dans les années 20, ils avaient des clubs et féminins déjà. Ouais. Mais que dans les années 80, même en Afrique, il n'y a pas de club et féminin. Mais quand on voit le progrès du Nigeria, de l'Afrique du Sud, sur le plan mondial, mais c'est énorme ce qu'ils ont fait. Donc il ne faut pas qu'on arrête ça brusquement, parce que comparativement au football masculin, le football, c'est le football, soit masculin, junior ou A, c'est le football.
Exactement.
Mais est-ce que réellement on doit taper sur la Confédération africaine de football pour avoir éliminé, pour avoir... laisser tomber, c'est annulé ce truc-là. On en a parlé, même si on doit revenir rapidement là-dessus.
Ça fait mal.
Un peu de respect pour le football et féminin, et par rapport à leur progrès. Donc, elles ont fait un tel progrès qui leur mérite beaucoup de respect par rapport à ce progrès-là. Mm-hmm. Parce que quand on sait, le football féminin, moi je ne le connaissais même pas en Afrique avant de quitter l'Afrique. C'est vrai qu'il y a des demoiselles qui jouent dans les rues et tout, mais le football africain, sur le plan mondial, moi, j'en connaissais pas. Mais quand on voit ce qu'elles font sur le plan mondial, mais c'est énorme.
C'est vrai que la Coupe d'Afrique, excuse-moi Christian, la Coupe d'Afrique féminine, coach Lamine, ça avait fait du bruit, notamment sur le plateau Tout Feu Tout Foot. On n'était pas content quand on avait appris que la CAF, effectivement, avait annulé la Coupe d'Afrique féminine 2020. Il leur restait plus que quelques mois pour se préparer la dernière ligne droite afin de disputer cette CAN. On sait qu'une CAN, comme pour les hommes, comme pour les jeunes, effectivement, c'est une grande compétition à laquelle on se prépare depuis très longtemps. Et là, effectivement, il leur restait plus que quelques mois pour finir leur préparation et se préparer. Et quand on avait effectivement entendu que la CAF avait annulé la Coupe d'Afrique des Nations féminines, c'était effectivement enfin, pour moi personnellement, c'était effectivement désobligeant et puis un petit peu blessant vis-à-vis de ces femmes qui se préparent depuis maintenant presque 2 ans, voire 3 ans, coach Lamine, pour certaines nations qui ont fait des matchs amicaux, qui ont fait des rencontres, qui ont fait des préparations physiques, qui ont fait des préparations techniques, et de voir effectivement une CAN qui s'annule comme ça du jour au lendemain, c'est désolant. Maintenant, elle est déplacée à 2022.
Donc on attend de voir.
On attend de voir.
Ouais. Alors messieurs, on va passer juste en jingle et puis venir sur les brèves africaines avant d'aller sur les championnats internationaux.
Tout feu, tout foot, l'émission 100% foot sur Africa Radio.
0155 07 58 00, venez nous rejoindre donc tout feu, tout foot. Messieurs, on va parler des brèves. Alors, vous donnerez votre avis, hein, messieurs, Christian Chango, Hakim Djellouat et le doyen Willy. Alors, un sujet souvent épineux au Ghana, Charles Akounor, le sélectionneur des Black Stars, confirme qu'André Ayou, dans son rôle, le milieu de Swansea restera le porteur du brassard. Donc déjà capitaine à la dernière CAN sous Kwesi Appiah, l'ancien Marseillais a encore eu les faveurs du nouveau staff. Thomas Partey, milieu de l'Atlético Madrid, est le vice-capitaine, tandis que le gardien Roland Ofori est le deuxième vice. Ce trio conduira les Black Stars dans les prochaines échéances éliminatoires CAN 2021 et Coupe du Monde 2022, sans oublier les différentes compétitions. Alors, un avis ?
Oui, c'est logique, hein. c'est une confirmation. André Ayou, on le connaît, ça fait des années qu'il est avec la sélection, il a commencé avec les jeunes, les U20, ça fait plus de 10 ans au moins maintenant qu'il est au plus haut niveau avec le Ghana, donc c'est la suite logique, hein, qu'il soit confirmé. C'était lui déjà lors des... Quand Asamoah Gyan n'était pas là, c'était lui derrière qui prenait la relève. Donc c'est une confirmation logique. Et très honnêtement, s'il n'avait pas été confirmé comme capitaine, j'aurais été un peu surpris puisqu'il fait partie des leaders de cette équipe et il fait la jonction un peu entre les anciens et les petits jeunes qui vont arriver. Donc
n'oubliez pas que ce sont quand même les deux frères. Ont souvent été contestés au sein de la sélection. Hein,
oui, donc, c'est vrai. Surtout Jordan, hein, puisque André a quand même été un peu plus légitime. Jordan aussi, il a son caractère, mais c'est un bon joueur. Mais t'as raison, coach, c'est vrai, il faut le rappeler. Hein, pour André Ayou, ça n'a jamais été non plus un long fleuve tranquille. Hein, donc ça a été des fois, par moments, compliqué. Et puis bon, il y avait aussi la légende Asamoah Gyan qui pour l'instant n'est plus là, donc c'est un juste retour qu'il soit confirmé.
C'est
et
lui
aussi
une
bonne nouvelle pour
pas.
Thomas Partey, voilà. Et une bonne nouvelle aussi pour Thomas Partey qui soit numéro 2, puisque de par ses performances sur le terrain, en club et en sélection, il a montré qu'il méritait d'être derrière André Ayou.
Oui, mais c'est bien pour lui parce que ça fait longtemps et c'est un vétéran il a commencé jeune avec eux, donc c'est un habitué de la maison, donc il est promu capitaine, c'est bien pour lui. Surtout comme Asamoah Gyan n'est plus de la maison, c'est parce qu'il a pris sa retraite.
Même si avec Asamoah, on ne sait jamais. Hein. Il peut revenir quand il veut.
Oui, mais par rapport au Ghana, le Ghana a des joueurs à revendre, même s'il travaille moins bien actuellement. Donc, à Asamoah Gyan, l'autre fois, j'ai vu qu'il faisait, comment on appelle ça, un petit chantage à la sélection avant de venir. Mais si le Ghana, Asamoah Gyan est obligé de faire du chantage au Ghana pour pouvoir jouer, c'est que le Ghana ne travaille plus.
Non, moi je pense que le choix de l'attaquant de Swansea City, André Ayou, c'est une bonne chose pour la sélection. C'est un joueur qui est plein de talent, qui est pétri de talent, qui porte effectivement haut et fort le maillot de la sélection du Ghana. Il l'a fait effectivement en Coupe du Monde, en Coupe d'Afrique. Je crois que c'est à juste titre de le nommer capitaine numéro 1 des Black Stars. C'est une bonne chose et ça le fait effectivement aussi. Ça lui donne effectivement aussi une nouvelle responsabilité. Dans le cadre d'un nouveau calendrier, coach Lamine, accompagné de Thomas Partey qui lui évolue du côté de l'Espagne, je pense que c'est une bonne chose et d'avoir des joueurs expérimentés capitaines, ça rassure effectivement aussi des jeunes joueurs qui arrivent en fait en sélection. On le sait, André Ayou a une excellente expérience du football européen, du football africain. Je pense que c'est une bonne chose et il peut porter ça effectivement haut et fort. En tout cas, ça sera effectivement plaisir de le voir sur le terrain avec la sélection des Black Stars.
Alors, Eduardo Camavinga, il a obtenu sa première sélection mardi avec l'équipe de France contre la Croatie, qui avait été battue, rappelez-vous, 4-2. Ouais. Les espoirs de la RD Congo d'accueillir le milieu de terrain s'envolent. Si la Fédération congolaise de football association le regrette, ils avaient émis le désir de l'avoir parmi les léopards. Bon, ils ont quand même reconnu, ils lui ont souhaité bonne chance.
Mais c'est fair play. C'est
fair play.
C'est comme ça.
Est-ce que rappelez-vous, il a 17 ans.
Ouais,
on avait dit que le nouveau règlement de la FIFA donne la possibilité à quelqu'un qui a fait pas plus de 3 matchs, qui a pas plus de 21 ans, de pouvoir aussi changer de nationalité.
Ouais, mais il a 17 ans, mais si la France a le moyen de le signer à vie, ils vont le faire tout de suite. Donc,
Vous le voyez toujours en équipe de France.
Oui, mais c'est clair, t'as vu le niveau qu'il a.
S'il confirme, parce qu'on en a vu beaucoup des jeunes espoirs à 17-18 ans qui étaient là-haut, qui avaient le potentiel et qui après, derrière, se sont écroulés. On lui souhaite, et c'est tout le mal qu'on lui souhaite, de continuer de briller. Il a tout pour réussir. Il est bien accompagné par ses parents.
Mais ça se voit.
Je tenais juste à préciser, le choix, c'est lui qui l'a fait. Puisque j'avais lu une interview de ses parents, notamment de son père qui est congolais, et il le disait que nous, on ne lui a pas, nous, donc les parents, on ne lui a rien imposé. C'est lui qui a décidé en son âme et conscience. Il avait notamment aussi donc, la sélection angolaise aussi, puisqu'il avait la nationalité et possibilité de jouer avec l'Angola.
Tout à fait.
Donc les deux fédérations qui l'ont sélectionné, il leur a répondu avec politesse et classe pour leur dire que lui, son choix depuis toujours, s'il avait la possibilité, ce serait l'équipe de France. Donc il les a remerciés et puis c'est tout le mal qu'on lui souhaite que ça se passe bien pour lui. Mais quand on l'a vu rentrer là avec l'équipe de France, on voit quand même que le
c'est
talent,
quelqu'un qui va y être.
Coach Lamine, il joue. Moi, c'est effectivement. Faut le protéger, Eduardo Camavinga, comme l'a dit Christian, comme l'a analysé Willy. Je crois qu'il faut laisser du temps au temps. Maintenant, c'est bien. Il a effectivement toutes les caméras sont tournées vers lui. Maintenant, il faut faire attention. Faut le protéger. Faut qu'il apprenne. Faut qu'il évolue petit à petit. Alors, certes, il évolue sans complexe face à une équipe de la Croatie que l'équipe de France avait battue en Coupe du Monde il n'y a pas si longtemps. Maintenant, faut laisser le temps au temps. Faut pas lui mettre de pression plus que ça. Et ça reste effectivement un talent. Maintenant, faut le laisser évoluer petit à petit.
Mais c'est l'entourage qui fait tout. Si bien l'entourage est fragile autour du joueur, le joueur devient fragile.
Messieurs, qu'est-ce que vous...
Oui. Pardon, vas-y, coach, parle.
Qu'est-ce que vous pensez donc de Seydou Guirassy, le joueur franco-guinéen qui est arrivé en provenance d'Amiens contre 15 millions d'euros et qui s'est offert un doublé ce week-end? Est-ce que réellement, c'est un record?
Si, coach. Déjà, c'est un jeune joueur, c'est une bonne recrue. Moi, je trouve qu'il a confirmé un peu déjà ce qu'il avait montré l'année précédente. Après, il faut qu'il continue de grandir et de confirmer ce qu'il nous a montré. Mais c'est quand même les débuts, ils sont tonitruants. Et puis là, l'équipe dans laquelle il est, l'équipe de Rennes, c'est une équipe qui joue. C'est une équipe qui joue. Tout est fait pour que ça se passe bien. Alors, pour
ça veut dire, Doyen Willy, qu'un garçon comme Baignang est déjà sur le banc depuis deux matchs à peu près, et qu'on l'annonce du côté de l'Olympique de Marseille. Est-ce que ça
risque
de
se faire rester,
Oui, mais lui, un grand joueur, un grand talent, mais qui n'a pas travaillé assez pour atteindre un bon niveau. Je ne sais pas, je ne le connais pas personnellement, mais il a les moyens de faire mieux que ce qu'il fait. Donc pour moi c'est un gâchis quand je le vois, mais quand tu le vois, et même pour Marseille, je ne sais pas, même s'il va à Marseille, je ne sais pas, parce que c'est un joueur qui depuis après le Milan AC, il a changé énormément.
Après coach, juste pour Guirassy et pour Mbaïnang, j'espère que Mbaïnang va rester à Rennes. Et c'est une bonne chose que Rennes s'est renforcé pour jouer à la Ligue des Champions. Et il faut de la concurrence devant. Et si on lui met, je pense que pour Mbaïnang, enfin j'espère qu'il le ressent comme ça, s'il ne part pas et qu'on lui a mis de la concurrence, on l'a mis plusieurs joueurs de qualité, ça va lui donner à lui encore plus envie de travailler et de porter l'équipe de Rennes vers le haut. Il fait une bonne saison là, cette année en Ligue des Champions. L'an prochain, ça y est, il peut partir la tête haute. Donc j'espère vraiment que le challenge qu'il a, Mbaïnang, s'il ne part pas de Rennes, il va l'accepter et comme disait Willy, qu'il va travailler pour confirmer ce qu'il nous a montré par moment avec Rennes et avec la sélection du Sénégal.
Alors, la SEC d'Abidjan, le club historique de Côte d'Ivoire, a annoncé le départ de près de 11 joueurs de son effectif doyen. Et pour la prochaine saison, les recrues arrivent déjà. 5 nouveaux joueurs ont été dévoilés, le latéral droit Kepta Ahmed Guy Romain en provenance de la SOA et l'ex-défenseur central de l'USC Bassam, Conan Yao Kevin Romaric, posent leur valise à Solbeni.
Oui, mais comment ça se fait qu'un club laisse partir 11 joueurs en même temps? Ça manque de sérieux.
Tout comme les milieux défensifs d'Akuri, Bradji Armel, provenant de NK Seklik de Bosnie-Herzégovine,
ouais.
Doudou Toali Armel, ex-sociétaire de la JIS 4, et Balagmbo Jean-Patrick, venant de Jeddah, Arabie Saoudite, signe à l'ASEC Mimosa. Dans la liste des départs, le défenseur Omar Sako, qui arrive en fin de contrat, et aussi votre ami le Togolais, Komla Agbe Nyadan, qui s'en va après 3 ans.
Ouais, j'ai un attaquant, lui. Ouais.
Alors, est-ce qu'avec ça, il y a une stabilité au niveau de l'ASEC d'Abidjan qui risque chaque fois de recommencer
ouais, c'est ce que je disais.
Et qu'on se retrouve dans une situation où le club qui a souvent pourtant des objectifs de jouer la Ligue des Champions ouais. se retrouve avec à recommencer tout le temps.
Ça risque d'être compliqué, on en parlait il n'y a pas si longtemps, coach Lamine, moi je le dis et je le répète, pour pouvoir prétendre à rejoindre un dernier carré de Ligue des Champions africaine ou de la Coupe de la Confédération africaine, c'est pas en laissant partir 12 joueurs d'un effectif que tout va s'arranger, en un coup de baguette magique comme ça, environ 12 joueurs, et en recrutant 12 autres derrière, que tout va fonctionner. Le football ivoirien souffre depuis des années en Coupe de la Confédération africaine, en Ligue des Champions africaines. On ne les voit pas assez, en fait, rejoindre effectivement le stade des huitièmes, des quarts de finale, voire des demi. J'ai l'impression qu'on est en train de stagner, de pas prendre la mesure des choses. À l'image de la présidence de la Fédération ivoirienne de football.
Dont on n'a pas parlé aujourd'hui.
Mais effectivement.
Parce qu'il se passe rien.
Et je pense qu'il y a des auditeurs qui vont nous contacter parce que c'est la folie. Laisser partir 12 joueurs comme ça de la SEC d'Abidjan, 11 joueurs, c'est quand même incroyable. C'est l'équivalent d'un carré coach Lamine de jeu de joueurs.
Ils ont envie peut-être de renouveler l'effectif.
C'est énorme.
Voilà quoi. Donc.
Ouais, mais on va voir. Attendons de voir
ce que ça va. Ah, mais
11 joueurs, Rudy, ça s'est jamais fait.
Je l'ai déjà dit, ça manque de sérieux.
Ça manque de sérieux, complètement.
Ouais. Messieurs, je vous propose de faire une petite pause et puis on revient tout de suite.
Plein feu sur la Liga sur Africa.
Africa Radio, 95.1 sur Abidjan, 107.5 à Paris, à Brazzaville, 94.5. Avec le doyen Willy Derkono, avec Hakim Djelouat, bien sûr Christian Chango, et puis sans oublier El Mejor de la Liga, El Mejor Football d'Espagne. J'ai nommé.
Non, del Mundo, pas d'Espagne.
Non, d'Espagne. Ils se prennent 8, ils ne peuvent pas être les meilleurs, là.
Coach Lamine, bonsoir, Doyen Willy.
Bonsoir.
Bonsoir, Hakim. Bonsoir, Christian. Bonsoir, Hélène. Bonsoir à tous ceux qui nous
écoutent. Adama, bonsoir. Donc, on va très bien.
Oui. Que la meilleure Liga del Mundo vient de démarrer.
Hein, va démarrer ou vient de démarrer?
Vient de démarrer.
Alors, c'est voilà. Pourquoi on vous appelle. On va avoir quelques petites nouvelles de la Liga. Avant de vous laisser, je voudrais avoir votre avis sur quelques petites brèves. Alors, le premier contrat professionnel pour Abdul Razak Yoda, le milieu de terrain burkinabé qui s'est engagé pour 2 saisons plus une option avec le TSV Hartbeek. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était un joueur qui venait de l'USFA, Union Sportive des Forces Armées, un international U20. Avec les étalons, il a disputé en 2018 le tournoi IFOA B à Lomé.
Oui, moi je pense que...
Une bonne pioche?
Souvent, il faut partir de là où nous sommes. Aujourd'hui, quand on vit l'expérience de compétition qu'il a magasiné, je pense que c'est une bonne chose. Aussi, c'est pas le seul Burkinabé. Il y a un autre Burkinabé qui est arrivé du côté du Bétis.
Mm-hmm.
Je vais vous dire comment il s'appelle, Bandaogo. Et lui aussi l'a signé, je crois que le jeudi dernier. Donc, je pense que on peut être bon, on peut compétir, mais plus on avance en âge, je crois qu'il faut aller au défi. Souvent.
Mmh.
Donc, pour moi, c'est des bons défis. c'est bien pour ces jeunes-là de venir essayer de, voilà, de s'acquérir, à prendre d'autres expériences. Mm-hmm. Peut-être cela peut renforcer l'avenir du football burkinabé, qui en a deux ans en ce moment.
Alors, parlons de Bertrand Traoré ensuite, puisqu'il n'est plus dans les plans de Rudy Garcia et qu'il est appelé à quitter l'Olympique lyonnais. Il est dans le viseur d'Aston Villa depuis plusieurs semaines. Avec une première offre de 17 millions par les dirigeants qui a été refusée par les Lyonnais.
Oui. Coach Lamine, hier à 23h05.
Exactement.
J'étais en contact avec son agent. Mm-hmm. Il m'a dit merci le coro, oui, c'est fin. Voilà le WhatsApp qu'il m'a envoyé parce que je lui ai posé la question. Aston Villa était sur Bertrand. Mmh. À un coût de 19 millions avec 9 millions variables. Donc il m'a répondu, il m'a dit merci le coron, c'est nous le coron, le grand frère.
Ouais.
Oui, c'est fait.
Donc ça y est, c'est fait, doyen Willy. Bertrand Traoré quitte le championnat de France avec Lyon pour signer à Aston Villa pour environ entre 19 et 20 millions.
Et une bonne nouvelle pour moi parce que j'ai toujours voulu qu'il s'en aille.
Il parte de Lyon.
Ouais. Oui, parce que. Et la plupart des gens qui jugent les joueurs ne tiennent pas compte de la qualité intrinsèque du joueur. C'est-à-dire qu'on va juger les joueurs par rapport à des bruits de match et tout, mais les consultants ou bien les journalistes français ont oublié que son parcours avec l'Ajax avant qu'on le prenne ici.
Il a même joué à Chelsea, non, il me semble.
Ouais, mais oui, il a joué à Chelsea, ouais. Il a même marqué des buts, je ne sais plus combien de buts il a marqué avec Chelsea.
C'est ça.
Parce que, voilà, il remplaçait Diogo Costa. Mm. Et donc, c'est pour vous dire que il a été un peu malmené du côté de la Ligue française, surtout la presse, surtout un certain Raymond Domenech. Ouais. Alors, donc, à un moment donné, vous savez, il faut être costaud sur le terrain, mais il faut être aussi costaud mentalement. C'est un garçon qui ne parle pas du tout. Il est très timide. Donc, si vous avez dû remarquer, il n'a jamais fait de sortie de presse depuis son passage en France. Mmh. Donc moi, je peux vous dire que hier, j'ai dit bonsoir à Mister David. À travers la presse, j'ai vu que notre champion, le champion burkinabé, va poser ses valises à Aston Villa. Donc il m'a dit oui, c'est fait. Donc moi, je suis très très content de cette nouvelle.
Une bonne nouvelle.
De son agent. Donc on attend de voir la concrétisation officielle.
Mmh.
Et donc c'est un garçon aujourd'hui qui vient à 10 millions du côté de l'Olympique lyonnais, qui s'en va à un coût de 19 millions avec 9 millions de variables. En même temps, le vendredi, dans l'après-midi, j'ai eu un fil donc, du côté d'un club important du côté de l'Espagne. Ils avaient déjà déposé les valises du côté de l'Espagne. Pardon, le coup de fil le jeudi. Et donc, j'étais obligé d'envoyer un message à son agent. J'ai dit de me rappeler urgentement. Donc, lui, il m'a répondu, il m'a dit, oui, mais écoute, fais-moi signe, moi, je te rappelle. Donc, samedi, on ne s'est pas eu. Il y a un autre club
qui le voulait,
très important du côté de l'Espagne, qui rentrait en contact encore avec moi, qui voulait rentrer en contact avec l'agent de Bertrand Traoré, qui s'appelle David, qui est son grand frère. Nous n'avions pas pu communiquer. Donc, ça veut dire que depuis le jeudi ou vendredi soir, il y avait trois clubs sur Bertrand, mais le premier club qui a pu mettre la main sur Bertrand, parce que David, il vit à Londres, donc ça a été Aston Villa.
Tant mieux.
Et donc, il a échappé belle du côté de l'Espagne.
Ok, alors on va continuer avec quelques brèves avant que vous nous parliez du championnat, bien sûr. Comment il s'appelle Lionel Messi, c'était chaud sur Manchester City, hein, finalement, puisque Manchester City avait proposé, vous vous rendez compte, 200 millions d'euros payables en deux fois.
Ouais, payables en deux chèques.
Mais c'est incroyable, ça.
Mais vous savez...
Une proposition qui aurait été transmise le 26 août, trois jours après la finale de la Ligue des Champions, vous vous rendez compte. Un montant significatif pour le statut par un joueur qui, malgré son statut d'icône, voit son contrat expirer dans un an. 200 millions payables en deux fois, 100 millions.
Ouais.
Avant qu'il ne change d'avis, bien sûr.
Ouais.
Voilà. Non, mais l'avis, il était obligé de changer l'avis à un certain moment donné. Et comme on le dit, c'est un professionnel. Il y a eu une déception. Il avait l'intention de vouloir bien faire. Ça fait 3 ans. Messi, on indexe Messi aujourd'hui, mais c'est tout l'effectif du Football Club de Barcelone qui réclamait auprès de la direction de faire des recrues pour renforcer cette équipe depuis 3 ans. Et donc Messi, dans les coulisses, a dit, avec ses coéquipiers, ça veut dire que les 5 ténors du club, que l'équipe était déjà malade, l'équipe avait besoin du sang neuf. Parce que voici le terme que Messi l'a dit en espagnol. Nos somos jóvenes. Cada día estamos corriendo, je sais pas, l'edad. En fait, on est plus jeune. Chaque jour, on devient de plus en plus âgé. Mmh. Donc, on a besoin du sang neuf. Mmh. Donc, c'est ce qui n'a pas été fait. Donc, Messi est resté. Et il a pu vraiment reconquérir le cœur des sociaux. Et c'est quelqu'un qui fait double séance d'entraînement. Et je pense que cette année, il y a des départs qui ont commencé à se faire déjà. Mais Koeman veut monter une équipe autour de Messi qui va le permettre d'être plus à l'aise.
En tout cas,
il y a Antoine. Il y a Suarez, il y a Vidal.
Antoine reste. Mais par contre, Suarez, lui, devrait partir.
Suarez et puis Vidal, ils sont à la sortie. Ouais. Voilà. Et ils n'ont pas été convoqués le week-end dernier contre le match amical contre Nastic de Tarragone, où Messi accepte déjà de céder sa place. Chose qu'on n'avait pas vue.
Bon, il n'a que 2 ans
depuis très longtemps.
Hein.
Donc, Koeman est en train de faire un travail psychologique avec Messi. Je crois que Messi va rester, mais Messi ne sera pas utilisé comme les années passées. Donc, il va accepter un autre statut au sein de cette équipe.
Alors, information. Luis Suarez est pisté par l'Olympique de Marseille. Christian Chango est là ? Il n'est pas là, Christian Chango. Okay.
Oui. Donc, et Coach Lamine, ce n'est pas tout. Aujourd'hui, les rumeurs encore. Un départ de Messi, une arrivée de Mbappé. Voilà les dernières nouvelles.
À Barcelone.
Pour la saison prochaine. Oui.
À la saison prochaine.
La saison prochaine.
Oui. Eh ben, les choses, ça va vite. Hein. Et donc, déjà, il y a des contacts qui ont été pris pour monter une équipe autour de Kylian Mbappé. Oh, donc, vous voyez, ça va très, très vite au football.
Ah ouais, il faut prévoir. Hein.
On verra bien. On verra bien. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'entraîneur de l'Atlético de Madrid ?
Ben là, il a contracté le
Covid.
La Covid, comme plusieurs sportifs aujourd'hui.
Ouais.
On peut pas rigoler parce que personne n'est à l'abri au jour d'aujourd'hui.
Non.
Que ce soit Diego Simeone. Que ce soit Coach Lamine, que ce soit moi, que ce soit le doyen Willy, c'est une triste réalité que nous vivons aujourd'hui.
Ouais.
Et donc, on doit toujours essayer de nous préserver et de respecter les mesures de distanciation et les mesures de barrières qu'on nous demande.
Mmh.
Donc, aujourd'hui, ben, malheureusement, virus.
Ça ne pose pas de problème au niveau du club et tout ça, non ?
Non, ben, il est en quarantaine. D'accord. Comme, voilà.
Quatorzaine.
Comme tout le monde.
Ouais.
Voilà. Et donc, on souhaite le retrouver très, 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 très rapidement, qu'il retrouve sa santé et puis qu'il nous revienne sur les stades, parce que c'est un one-man show sur sa bande de touche. Hein. Coach Lamine, je ne sais pas si vous suivez
avec ses chemises noires.
Ouais.
C'est bizarre.
Elle a sa petite cravate. Donc,
Et ton sur ton, là.
La ficelle.
Ouais.
Alors, dernière brève avant que vous nous parliez du championnat. Un joueur du Real de Madrid est dragué par le Qatar et aurait reçu une très belle proposition selon Marca. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de ces Lucas Vázquez?
Oui, vous savez, aujourd'hui, c'est que des rumeurs.
Mmh.
Et Lucas Vázquez n'a pas fait une saison aussi brillante du côté de cette saison. Mais quand même, ça reste un grand technicien.
Ah ouais.
Aujourd'hui, un joueur si son âge n'est pas âgé, qui est courtisé par le Qatar, soit il va pour de l'argent et il arrête sa carrière, soit il poursuit son combat d'un bon milieu offensif pour retrouver son niveau qu'on a connu à lui par le passé. Donc, nous sommes au stade des rumeurs, c'est comme Eden Hazard, où pour une première phase, Eden s'est énervé contre le joueur. Et aujourd'hui, même son président, s'est joint à son coach pour vraiment accélérer un échange entre sacrifier Hazard et l'arrivée de Kylian Mbappé. Donc, c'est pour vous dire.
Alors,
que
Kylian Mbappé, vous le verrez, vous le voyez à Barcelone et au Real de Madrid.
Ah ouais.
C'est deux projets. C'est deux projets différents. Donc, je pense que c'est. Déjà, il est bien dans son club au Paris Saint-Germain. Il va aller jusqu'à la fin de son contrat. D'ailleurs, même du côté de l'Espagne, on dit que quand Kylian n'est pas là, le Paris Saint-Germain est malade.
Ouais, en tout cas, hier.
Donc, l'option. Ou l'obsession des Barcelonais, des Madrilènes sur Neymar. Neymar, si vous vous rappelez, je vous l'ai déjà dit, il risque de terminer sa carrière comme un certain Robinho. Je ne sais pas si ce nom vous parle.
Ouais, mais ce n'est pas pareil du tout. Ce n'est pas pareil. Hein? Le problème de Robinho, c'est que Robinho est parti de Santos un peu plus tôt que Neymar. Donc, le fait de faire partir les joueurs tôt, il y a beaucoup d'échecs dans ce genre de trucs. Mmh. Donc, la chance de Neymar, c'est que et Pelé a pesé de son poids pour que Neymar ne quitte pas très tôt Santos. Mmh. Mais c'est toute la différence. Oui, parce qu'il y avait Robinho et Diego. Ils étaient deux. Je les connaissais à l'heure de début. Il y avait Diego et Robinho. Ils sont partis tôt. C'est ça le problème.
On parlait à l'époque de Robinho, on parlait de Messi, on parlait de Cristiano. C'était de la même génération.
Oui.
Aujourd'hui, si Neymar continue comme ça, je pense que Neymar ne pourra pas apporter grand-chose au Paris Saint-Germain.
On va y revenir de toute façon lors de notre truc.
Donc Neymar n'est pas trop du côté de la Liga. Aujourd'hui, ce n'est plus un rêve. Pour la couleur, ni pour la Casablanca.
D'accord.
Il reste un grand technicien. Je pense que si un club parmi les deux pouvait se l'offrir à un prix, pas comme le prix qu'on estimait sur sa personne, mais il va être la bienvenue, mais ce serait plus la grande bagarre économique autour de lui.
Alors, parlons-nous maintenant du championnat espagnol qui va ouvrir à quand, déjà ?
Non, mais on a déjà commencé la première journée.
La première journée.
Eibar a fait match nul à la maison contre le Celta de Vigo. Eibar de notre frère Pape, donc qui a même joué. Et aussi Granada qui a pris le dessus à la maison sur Atlético Club de Bilbao. Il y a le promu Cadiz à la maison qui a été défait par un promu Osasuna par 2-0. Il y a Alavés qui a été défait à la maison par le Real de Betis de l'international champion du monde, donc Fekir, et il y a Real Valladolid du président El Fenomeno, Ronaldo, qui a été tenu en échec par Real Sociedad. Il y a Villarreal qui a fait 1-1 contre Huesca.
Finalement, ce sont des débuts des petites équipes là.
Ouais, après Villarreal, il y a Unai Emery du côté de Villarreal qui fait ses débuts, qui revient en Espagne, Unai Emery. Qui a réussi à tenir en échec Huesca. Après c'est une première rencontre à Dama, mais je pense qu'il revient en terre quand même connue. Donc Unai Emery connaît bien le championnat espagnol. Notamment
son premier match à la maison au stade de la Céramique, il s'y sépare avec un nul. Donc et on espère de voir le championnat démarrer véritablement. Il y a Valencia contre la banlieue de Valencia, Levante. Valencia a pris le dessus 4-2.
Ouais.
Donc voilà les rencontres qui ont été disputées lors de cette première journée.
Donc pas de Real, pas de Barcelone, pas d'Atlético.
Atlético de Madrid contre Séville a été reporté. Et Barcelone contre Elche a été reporté. le Real de Madrid contre Etafé a été reporté. Donc,
et la semaine prochaine, joue le, Real va jouer le Real Sociedad à l'extérieur. Notamment Getafe hein, qui va aussi accueillir. Lui, Osasuna, ça sera le vendredi de la semaine prochaine.
Voilà, ça sera le programme de la deuxième journée.
Ouais. Alors, mais est-ce qu'on peut avoir d'ores et déjà sur cette première journée un avis? Oui, on va avoir le classement. Mais je veux dire, comment vous avez trouvé un peu le retour du championnat espagnol sur le terrain? Est-ce que quelles sont les conditions? Dans quelles conditions ça a été fait? C'est toujours donc à huis clos avec de la musique de football FIFA 2000-2002 ou des trucs comme ça?
Non, coach Lamine, c'est toujours à huis clos. La fédération espagnole est en train de vouloir travailler pour permettre le retour des gens dans les stades, mais vu aujourd'hui avec cette maladie qui menace Madrid, qui menace Barcelone, est-ce que c'est pour demain? Aujourd'hui, les gens pensent plus à la santé, les gens pensent plus à se protéger, et donc il n'y a pas trop d'engouement pour ce début de la Liga espagnole. Donc, même moi, personnellement, je suis les différentes rencontres à la télé, comme tout le monde. Et je pense que j'attendrai à partir de la cinquième journée pour essayer de m'hasarder un peu dans les stades.
Voilà. Pas d'entraînement. Les entraînements sont fermés, c'est à huis clos, ouais.
Voilà.
Etc.
Voilà, etc.
Mais est-ce qu'il n'y a pas eu de gros coups au niveau, quand je dis gros coups, je parle de transfert, hein. De gros coups par rapport à ce début de championnat?
Non,
une grosse arrivée.
En Espagne, on reste encore timide, puisqu'il reste encore deux bonnes semaines. De gros coups, je pense que c'est
tout africain, quoi, je veux dire.
Qui veut se la jouer avec, du côté de l'Italie. Et si du côté de Madrid, il y a toujours cette attente du côté de Manchester par rapport à l'international champion du monde Pogba, mais il n'y a pas de gros coup, il n'y a pas cette saison, chaque saison, on a une grosse pointure du football planétaire qui arrive. Mais bon, on attend de voir les deux dernières semaines qui vont dresser par rapport au mercato, quoi. Sinon, il n'y a pas de gros coup.
Alors, donc, tu vois que ce n'est pas le mejor Liga des Mundo. Hein.
Non, mais Coach Lamine, même du côté de la France, il n'y a pas de gros coup.
Oh, si.
Il n'y a pas de gros coup.
Ouais, donc, mais c'est pas. Et Adama, ce ne sont pas les prix des joueurs qui font de bons joueurs.
Hein. Ouais. En tout cas.
Moi, je signe, je persiste. El mejor Liga del Mundo.
Oui, d'accord.
Non, on a, c'est vrai, il y a eu cet épisode intéressant, Coach Lamine, du départ ou non de Lionel Messi. Finalement, il reste. Donc, je pense que c'est une bonne chose, en tout cas, pour le FC Barcelone et tous les coéquipiers autour. Et également pour le charme de la Liga, parce que une Liga sans une star comme Lionel Messi, ça aurait.
Mais c'est la raison pour laquelle. La fédération a refusé de le laisser partir aussi.
Ouais, oui, même du côté madrilène, Ramos avait fait une sortie.
Ouais.
Il a dit je souhaiterais que Messi reste parce que ensemble nous animons la Liga, nous animons le monde du sport. Donc ça a été un soulagement de voir Messi rester. Et Messi est resté, mais je ne sais pas si Messi est resté. Parce qu'il avait envie de rester. Messi est resté.
Il est resté parce qu'il devait payer 700 millions, c'est tout.
Voilà.
Il y a des choses qui.
Mais de rien, est-ce qu'on a des nouvelles un peu de Zinedine Zidane? Il ne bouge pas, il n'y a pas de problème, je veux dire.
Mais son équipe est équilibrée, donc où est le problème?
Zinedine Zidane
il a gagné le championnat.
Avec son capitaine qui a laissé pousser sa barbe, vous allez voir la métamorphose de son capitaine Sergio Ramos. Donc, c'est vrai que non, Zinedine Zidane, il a son effectif.
Ouais.
Il va ajouter quelques joueurs, mais bon, il n'est pas du tout content de son joueur Eden Hazard. Mmh. Donc, il va falloir que quand même ces derniers aussi se ménagent un peu pour pouvoir avoir une vie professionnelle.
Ah, voilà. Ok. Alors, est-ce que, justement, vous avez entendu parler toujours en Espagne de... de cet intérêt de l'Olympique de Marseille pour Luis Suarez?
International colombien?
Non, il n'est pas colombien,
Luis Suarez. Uruguay.
Non, non, pas l'Uruguay. Pas l'Uruguayen. Il y a également l'international colombien qui évolue en Espagne, Adama.
Qui s'appelle comment?
Qui s'appelle...
Il y a beaucoup d'internationaux.
Non, non, qui s'appelle aussi Luis Suarez.
Il évolue dans quel club? Je t'avoue que c'est Luis Suarez de Football Club Barcelone qui me saute dans la tête.
Il était du côté de Watford et il est passé par le Nastic, Tarragone, Saragosse et Valladolid. 22 ans.
Bonne information, je vais pister pour avoir plus d'infos.
Un peu plus de billes, ouais.
Voilà, donc comme ça, je vous reviendrai la semaine prochaine. Puisque du côté de la France, beaucoup de joueurs espagnols ne sont pas trop attirés sur la Ligue une française. Donc Alvaro, on le connaît, qui avait dit à Messi ces petits détails. Qui fait la une aujourd'hui.
Et lui, il lui a dit que tu étais nul.
Français. Et donc, qui dit Messi, ben, lui, il aime bien se faire remarquer en ayant affaire à la bande de Messi et ses amis.
Ok.
Alors, vous avez dû le constater lors de ce classico.
On va en parler.
Plein feu sur la Première Ligue, sur Africa.
Messieurs, toujours sur Africa Radio, Paris 107.5, Africa Radio, sur Abidjan c'est 91.1, Brazzaville c'est 94.5. Messieurs, les résultats et bien sûr le classement.
Pour la Ligue 1, coach Lamine, on va pas...
la
Première Ligue. Oui, alors on va s'intéresser à la Première Ligue tout de suite, je vous donne... les résultats
avec un match qui a
Liverpool
époustouflant
Liverpool contre Leeds. Coach Lamine, ça c'était le match effectivement à suivre, donc 4-3, un match qui a fait saliver Willy Dorconou. 4-3 pour Leeds, et notamment une grosse sortie de un gros match de Sadio et notamment Mohamed Salah. Coach Lamine qui rentre un petit peu plus selon la presse dans l'histoire.
Ensuite, quels sont les autres résultats?
Ensuite, on a eu une autre rencontre, c'était aussi samedi, West Ham qui s'est incliné contre Newcastle 2-0, Leicester qui a remporté son match 3-0 contre WBA, Tottenham qui s'est incliné à domicile contre Everton, Brighton-Chelsea c'est en cours, 8e minute, toujours 0-0 entre le club du sud de l'Angleterre contre Chelsea, club londonien. Toujours 0-0. Sheffield United s'est incliné contre les Wolves 2-0. Ça, c'était tout à l'heure. Et dans les autres rencontres, Lamine, on a effectivement Crystal Palace qui s'est imposé contre Southampton 1-0. Et Fulham qui s'est incliné contre Arsenal 3-0 à domicile.
Et le classement pour le moment?
Et le classement pour l'instant, eh bien, c'est on a Arsenal donc en première position avec Leicester, Newcastle 3e place. Donc Liverpool 5e, West Ham de Fulham donc qui est 19e, West Ham 18e, Sheffield United 17e.
Alors on fait rapidement une pause, on revient tout de suite pour décortiquer.
Plein feu sur la Première Ligue sur Africa.
Africa Radio bien sûr, 107.5 sur Paris, Abidjan 91.1, Brazzaville 94.5. Nous allons messieurs décortiquer la Première Ligue. Avec donc Doyen, un match qui nous a tenu en haleine, c'est ce match entre Liverpool et bien sûr El Loco.
Club de Leeds avec Monsieur Bielsa sur les bancs, mais accroupi.
Accroupi, pas sur la glacière.
Mais c'était un match palpitant.
Alors, 7 buts quand même, ça fait beaucoup.
Oui, ça fait beaucoup parce que mais c'est Liverpool, hein. Ils ont toujours été comme ça, ils prennent des buts et ils t'en marquent un peu plus. Donc leur défense, elle est bonne et fragile en même temps. On a vu Van Dijk, il a marqué un but, et après il a fait une erreur monumentale.
Est-ce qu'il ne se regarde pas trop bien, trop jouer? Il n'a pas la grosse tête actuelle.
Non, non.
Parce qu'il fait beaucoup d'erreurs quand même, Van Dijk.
Oui, mais il est tellement bon que quand il en fait une, ça se voit trop, trop grand. Mais c'est tout, c'est un bon défenseur. Il ne tombe jamais, et il anticipe. Donc, c'est ça. Quand Van Dijk fait une erreur, c'est immense.
Adama, vous avez regardé?
Oui. Mmh. Oui, oui, j'ai vu le résumé. Je peux vous assurer que, en voyant le résumé, j'étais bluffé. Et moi, personnellement, depuis la Covid, je pense que c'est l'un des plus beaux matchs, si je m'abuse, que j'ai vu. Et surtout, avec Bielsa, la saison dernière, par rapport à sa rigueur, a empêché son équipe de monter en première ligue, en première division. Il rebelote avec la même équipe. Il monte avec l'équipe en première division. Ça, il faut le faire. Et son premier match, c'était un match fou. Et Veni Titi, Liverpool chez eux,
ouais,
en marquant 3 buts.
Ouais, c'est ça qui c'est la véritable performance. Avant qu'on parle de performance individuelle, ouais, avec Mo Salah bien sûr qui a marqué en triplé, c'est le fait que quand même c'est une équipe qui monte de la deuxième division de Championship,
ouais,
pour aller en première ligue. Ouais. Donc ouais, arriver là et inquiéter quand même le champion d'Angleterre,
ouais,
c'est une véritable performance, hein, Hakim.
C'est une véritable performance et c'est vrai tout que ça. Quand on revoit le résumé, comme le dit Adama, c'était incroyable. C'était un vrai match à l'anglaise. Il n'y a pas eu de répit entre les gardiens de but. Ça, c'était du kick and rush comme on aime. Et Mohamed Salah qui a pris toutes ses responsabilités, notamment le premier but, coach Lamine qui met sur penalty. Il prend le ballon, il va le jouer, il va le frapper incroyablement bien. Ensuite, l'égalisation derrière de Leeds qui revient bien fort. Et c'est un match intéressant parce que c'était un match à suspense, à rebondissement. On pensait que Leeds allait effectivement flancher, mais non, ils n'ont pas rougi face à Liverpool, face à l'ogre de Liverpool qui a remporté le championnat l'année dernière. Et malgré effectivement les deux pénalties inscrits par Mo Salah, Leeds a su retrouver les ressources nécessaires pour essayer de revenir. Et montrer surtout qu'il faudra compter sur eux cette saison.
Ouais.
Alors, le triplé de Mo Salah, Adama.
Oui, ben, coach Lamine, ça ne fait que...
Que commencer.
Voilà, que commencer. Et aussi, moi j'ai dit, il s'est signalé, il a fait un triplé, mais ce n'est que le début. Parce que ceux qui ont l'habitude de ce genre de compétition ne sont pas encore en jambes. Donc, c'est trop tôt pour... On salue la performance, mais on attend la confirmation.
Toyen, vous pensez que Mo, c'est là parmi les meilleurs buteurs? Ben, si on peut parler, bien sûr, du jeune Gabonais,
ouais,
Pierre-Emerick Aubameyang, qui aussi a marqué. Mais commencer sur ce premier match avec 3 buts, c'est déjà une bonne avance sur ses concurrents.
Oui,
non, bien sûr.
Et il peut aller loin, parce que c'est quelqu'un qui est très attiré par le but. Donc, il est moins collectif que les autres attaquants aussi. Il faut le souligner.
Ouais, il est moins collectif, ça,
oui,
c'est vrai.
Donc, lui, il peut, en marquant 3 dès le début, il peut aller loin, parce que lui, il est très attiré par le but. On a vu même dans ce match qu'il y a un ballon qui traînait et on a vu la volée dans la lucarne grave. Donc, c'est quelqu'un qui est attiré par le but, donc il va en marquer plein. Mais il faut aussi dire que le club a félicité l'équipe de Lys.
Pour avoir ouvert le jeu.
Ah, il n'a jamais vu, depuis longtemps qu'il n'a pas vu une équipe aussi déterminée que Lys. Donc, comme disait Hakim, il risque d'aller loin avec cette équipe-là.
Alcantara a joué?
Non. Il n'a pas joué pour l'instant.
Ok. Arsenal face à Fulham, on a bien vu que aussi cette équipe qui s'est renforcée, Arsenal qui s'est renforcée,
ouais,
s'est régalée face à Fulham.
Oui, Arsenal, coach Lamine qui remporte leur match. Arsenal qui, on va dire, qui commence bien la saison avec 3 buts. Donc ils sont pour l'instant premiers du classement de la première ligue avec cette première victoire. Donc il y a Alexandre Lacazette qui a inscrit le premier but à la 8e minute, Gabriel à la juste après la pause 49e, et l'international gabonais, tu l'as dit, Lamine, il s'est mis en lumière avec un bon but donc à la 57e minute. Donc ils sont venus à bout de Fulham.
Finalement, un match facile aussi. Hein,
oui, mais c'est pas facile. C'est l'équipe qui est devenue forte. Parce que,
c'est pas évident.
Ouais, en première ligue, il n'y a pas de match facile. Donc cette équipe s'est renforcée. Ça se voit avec le Willian et compagnie. On a vu dans le match, à tel point qu'il y a un bon joueur que j'aime beaucoup, Pépé, qui est relégué sur le banc. Ça veut dire que l'équipe s'est vraiment renforcée.
Mmh. En face aussi, on avait un effectif qui était pas mal, puisqu'on a Camara qui était devant, Kebano juste derrière Camara. Avec une équipe qui a joué plusieurs fois effectivement la Champions League, la Ligue des Champions européenne, l'Europa League. Maintenant bon, c'est une première rencontre, c'est un premier match, mais faudra se méfier cette saison. Il y a des équipes qui arrivent plutôt en force, donc notamment Arsenal, donc qui n'a pas blagué dès son premier match. Je pense que c'est de cette manière là qu'il faut aborder les premières rencontres, coach Lamine, en marquant les esprits, en marquant des buts. Et en essayant d'engranger le maximum de points sans se prendre de but.
Alors, on a eu un match aussi qui était très intéressant, très très bon. Everton face à Tottenham.
Oui, on a vu, ils n'ont pas tremblé devant l'équipe de José Mourinho. Ils n'ont pas eu peur du tout.
C'est le recrutement aussi qui fait ça, parce qu'il y a quand même ce jeune joueur de Muro, Doucouré, qui au milieu du terrain a été très très bon.
Ouais, depuis son club Watford, il a toujours été bon ce joueur. Donc ceux qui ont l'œil pour le reprendre, ils se sont bien fait. Donc Arsenal et Everton, on a vu que leur attaquant brésilien, il est toujours là quand il faut. Donc cette équipe aussi risque de faire mal. Donc bien bien renforcée, ils ont fait un bon recrutement.
Oui, puis Lucadigne, quand vous prenez Lucadigne, quand vous prenez Hernandez, comment il s'appelle, celui qui était c'était au Real, je pense, le milieu de terrain.
Il y a, faut pas oublier l'arrivée aussi de James Rodriguez.
Rodriguez, juste.
Et avec son coéquipier de la défense. Donc l'équipe est vraiment équilibrée.
C'est une équipe intéressante. Il y a effectivement Lucadigne, coach Lamine, on a James aussi qui a évolué, Doucouré, comme tu l'as dit, au milieu de terrain,
très bon.
Sur le côté droit avec Pickford. Donc en face, c'était pas une petite
Pickford
équipe.
Pickford pas mal comme gardien.
Ah non.
Ouais, Pickford très très intéressant, mais en face on n'avait pas une petite équipe, coach.
Non
on
plus,
avait
non
notamment
plus,
Harry
non
Kane. On avait Lucas Moura. Il y avait Lloris au cage. Donc je crois que c'était un bon test pour Everton. Ils n'ont pas rougi, ils ont joué avec leurs moyens, avec leur qualité, et ça a payé effectivement tout de suite. Ils ont opté pour un 4-3-3 contre un 4-2-3-1 pour Tottenham, et ils ont réussi à inscrire un but à la deuxième mi-temps, 55e, ce qui les a délivrés et ce qui leur permet de gagner leur premier match, et pas face à n'importe qui, face à l'équipe de José Mourinho.
Ah ouais, il faut le faire.
Ouais. Alors c'était au classement,
Carlo Ancelotti, l'entraîneur de
Carlo, bien sûr. Et aujourd'hui, les matchs qui se jouent actuellement, je pense qu'il y a un Chelsea qui devrait jouer quelque part.
Oui, 18e minute, toujours match en cours que vous suivez sur Tout Foot, Tout Foot. Brighton-Chelsea 0-0. On joue la première mi-temps, 18e minute, toujours 0-0. Il y a notamment Mehdi Yaya d'Alfortville qui nous fait un petit coucou via le site de Tout Feu Tout Foot et l'émission Sport. Vous aussi faites comme Mehdi Yaya, fan de l'équipe nationale d'Algérie.
Et Chelsea, c'est une équipe très renforcée aussi cette année, donc il faut en tenir compte, hein,
Chelsea. Oui, bien sûr.
Ouais. Ils vont être présents aussi dans la bataille, hein.
Ouais, Chelsea qui est notamment, comme le dit Willy, coach Lamine, qui a effectué aussi un recrutement intéressant. Donc eux, ils y vont effectivement doucement. Mais cette année, je pense qu'ils risquent de jouer les premiers rôles dès le début de saison. Après, cette année, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a effectivement des nouvelles équipes qui sont entrées dans la première ligue, qui ont réussi à monter. Donc ça va apporter encore de la nouveauté, du suspense, un petit peu d'allant et surtout des matchs qu'on ne voyait pas l'année dernière.
Ouais. Manchester United.
Ouais, Manchester United, on va s'y intéresser... tout de suite, et Manchester United qui n'a pas joué. Match effectivement qui sera placé pour la prochaine fois. En tout cas, ils vont aborder la deuxième journée, coach Lamine, avec un match reporté. Et la deuxième journée, ça sera contre Crystal Palace. Et ça sera le samedi 19 septembre, ce sera cette semaine. Une bonne entrée en manière face à Crystal Palace, hein, qui notamment Crystal Palace, coach Lamine, qui n'a pas loupé sa première sortie, puisque contre Southampton, elle s'est imposée 1-0. Donc ils vont partir avec peut-être la fleur au fusil, Crystal Palace, en jouant contre Manchester United à l'extérieur. Donc, je pense que ça va être un très bon test pour Manchester United, qui jouera son premier match lors de la deuxième journée.
Plein feu sur la Ligue 1, sur Africa.
Messieurs, voilà, c'est arrivé. Donc, on va déjà avoir les résultats de cette Ligue 1. C'est deuxième journée.
Oui, deuxième journée, coach Lamine, avec pas mal de résultats intéressants. La troisième, hein, troisième journée. On parle effectivement avec ce premier match qui a eu lieu entre Bordeaux et Lyon. On s'attendait à un match un petit peu plus animé, même s'il y a eu des occasions de part et d'autre. Mais le match est fini par un score nul, 0-0 entre Bordeaux et Lyon. Ensuite, c'est joué Montpellier-Nice. Très très bon match de Montpellier, 3-1 contre les hommes de Patrick Vieira, effectivement, qui s'est incliné face à Montpellier 3-1. Saint-Étienne qui s'impose 2-0 contre Strasbourg. Lille, le LOSC, s'impose grâce notamment à un de nos chers jeunes joueurs africains, 1-0 donc contre Metz. Angers, il y a eu deux cartons rouges hein, dans la rencontre, s'impose à domicile contre Reims, 1-0. Dijon a manqué le coche dans cette troisième journée. Ils se sont inclinés face à Brest 2-0. Bonne rentrée pour le club breton. L'autre club breton qui a frappé fort, coach Lamine, dans cette troisième journée, c'est Rennes. 4-2 contre Nîmes. Lens s'est imposé face à Lorient, et Lens qui continue à s'avancer après sa victoire contre le PSG. Lens, 3-2 contre Lorient. Monaco qui s'impose 2-1 contre Nantes. Tiens, Monaco-Nantes avec Jafet Andorab, on lui fait un coucou. Ouais. Lui qui est du côté de Nantes maintenant. Le Paris Saint-Germain qui s'est incliné face à Marseille 1-0. Et au classement, coach Lamine, eh bien, le Paris Saint-Germain pointe à l'avant-dernière place, 18e du classement.
Donc ça veut dire que si aujourd'hui on arrêtait le championnat, le Paris Saint-Germain, deuxième division.
Ouais, c'est ça. Il rejoindrait effectivement la Ligue 2, 18e avec, on va le dire, hein, exactement 0 points. Dijon, 19e. Strasbourg, 20e avec 0 points également. Pointe à la première place, Rennes.
C'est peut-être premier. Qu'on peut arrêter le championnat. Hein, c'est
Monaco, possible. Deuxième. Ah ouais, Lille, avec le coronavirus, tout est possible, hein, coach Amy. Avec la Covid-19, tout est possible. Saint-Etienne, 4e. Marseille, 5e.
Alors, on va revenir sur les matchs. On va revenir sur des équipes. Doyen Willy, Hakim et Adama. On va revenir sur des équipes que j'ai trouvées vraiment qui sont partis tambour battant, comme on le dit. Il y a le Monaco, il y a Lille, il y a Saint-Étienne.
Ouais. Lens.
Il y a Lens.
Ouais.
Donc, alors, vos avis sur ces équipes-là? Est-ce que c'est... On fait du bruit parce que c'est le début du championnat, que les autres équipes ne sont pas en forme, ou bien il faudra compter sur eux? Prenons Saint-Étienne, par exemple.
Oui, mais le championnat, il faut bien commencer le championnat. Parce que la route est longue, donc il faut faire ses bagages, bien faire ses bagages dès le début. Donc ceux qui gagnent dès le début, même deux matchs, ils ont bien commencé. Parce que la route est tellement longue qu'il ne faut pas perdre de
temps.
D'entrée, il faut gagner les matchs.
Parce que
il faut donner le temps, comme on dit. Il faut donner le temps, comme on dit. Donc, ceux qui ont gagné, ils ont bien commencé, comme Lens. Donc, ils ont bien commencé. Mais ceux qui pensent que... on a vu Lille devenir champion un jour en France ici, simplement parce qu'ils ont bien commencé. Donc, il ne faut pas dire qu'ils vont s'essouffler vers la fin. Non, il faut bien commencer. Mm-hmm. Parce que quand on veut rattraper le premier, c'est plus difficile que d'être premier.
Ça, c'est clair.
Ah ouais.
Non, mais ce qui est intéressant, coach Lamine, c'est effectivement que ça offre une note plutôt particulière pour ce début de championnat de Ligue 1. On a effectivement des équipes comme Lens qui ont battu le Paris Saint-Germain. Alors on sait effectivement les particularités de l'effectif du PSG, avec quelques absences bien sûr, notamment en raison de ce virus. Mais ça n'empêche pas qu'il y a eu des victoires. Lens s'est imposé face au Paris Saint-Germain lors de la deuxième journée. Sa troisième journée, elle est remportée aussi avec un score intéressant. Je pense que ça permet de voir et d'observer qu'il y a quelques équipes, comme l'a dit Willy, qui veulent s'imposer dans ce début de championnat de Ligue 1. Rien n'est fait, rien n'est terminé. Certes, on n'en est qu'au début, mais ça commence à offrir un peu un parfum de nouveauté sur cette Ligue 1.
D'équilibre,
oui,
par rapport à ce truc.
C'est bien pour le sport.
Oui, peut-être, mais est-ce qu'il n'y aura pas des équipes qui vont sombrer après ?
Oui, on va voir.
Bon, parce que tout est une question de c'est vrai, il faut pas...
De banc aussi.
Exactement.
Ouais, il faut avoir un bon banc, surtout avec la maladie, avec la pandémie et tout, il faut avoir un bon banc. On a vu ça avec le PSG, donc une grande équipe, c'est une équipe qui a un bon banc. Mmh. C'est-à-dire que si les stars sont blessés, on peut remplacer les stars valablement. Et ça compte énormément. Donc, il y a un club comme Marseille, par exemple, qui va faire la Champions League. Tu t'imagines si Marseille est fatigué en Champions League, il va laisser passer le championnat. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer.
Mmh. Non, je pense que c'est très tôt pour pouvoir se pronostiquer par rapport à ces championnats qui démarrent difficilement.
Ouais.
Une équipe qui joue la troisième journée alors qu'elle n'a pas joué la première journée. C'est très difficile de situer le niveau réel des différents championnats. Mais, comme l'a dit le doyen Willy, mieux vaut commencer à accumuler des points dès le départ. Parce que je sais que dans les calculs, quand vous arrivez à engendrer, je sais plus, 18, 13 ou 14 victoires, je ne sais plus, 12, vous êtes sûr de rester en première division.
Ouais.
Et donc, c'est mieux d'aller chercher les points en ce moment.
Ouais.
Et je pense que la Covid peut amener des surprises dans les différents championnats.
Ouais.
Puisque aujourd'hui, on voit le Paris Saint-Germain qui a été plus ou moins diminué. Mais quand on joue au Paris Saint-Germain, c'est quand on est un bon joueur. Quand on joue du côté du Real, c'est qu'on est un bon joueur. Quand on joue du côté de Madrid et du Barça, on est un bon joueur. Donc moi, je me dis, les 23 sont tous au même pied d'égalité. Ouais. Donc il n'y a pas d'excuse possible.
Non.
Que moi, je félicite la performance de Lens,
ouais,
lors de sa première journée contre le Paris Saint-Germain. Où ils nous ont confirmé lors de la deuxième journée également. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans nos championnats.
Alors,
il y a des équipes qui sont fortes avec le public. Il y a des équipes qui ne savent pas jouer sans leur public. Je ne sais pas si vous avez fait un arrêt image sur ce côté pour voir des équipes qui sont fortes avec le public et des équipes qui sont faibles sans public.
Ah oui, peut-être, oui. Au niveau de Lens, mais pourtant, c'est pas vérifié. Parce que quand vous avez le public lensois qui devrait toujours, qui, on le connaît,
ouais,
ce public qui a toujours accompagné son équipe, mais qui n'empêche pas que actuellement Lens puisse faire...
Lens, c'est comme l'OM. Mm-hmm. Donc c'est son environnement qui compte. L'environnement aussi, on parle de public, mais il y a l'environnement aussi. Il y a l'histoire du club, il y a le vécu du club, et ça ne part pas. Les joueurs, même quand on signe aujourd'hui, le lendemain, on sait où on a mis le pied. Ou bien on va faire une petite visite dans la salle de trophées, on sait où on met le pied. Donc, cet environnement-là joue. Même s'il n'y a pas de public à Lens, l'esprit de Lensois reste.
Mmh.
Ouais.
Alors, il y a aussi Monaco. Monaco aussi, qui est en train de faire un début de saison pas mal du tout. 2 victoires, il me semble.
Oui, mais c'est normal. Eux, ils viennent de loin. Ils ont intérêt à se remettre sur le truc de bon rail.
Parce qu'ils
ont les moyens. Hein, et donc, ils ont payé cash leur façon de gérer le club. Donc, peut-être qu'ils ont à ramener d'autres coachs. Ils veulent changer un peu cette situation-là. Où il jouait le rôle de vendeur de joueurs, ça sert à rien. Mm-hmm. Donc, c'est pas une équipe qui se basait sur le sport.
Mm-hmm. Oui,
c'est une équipe commerciale au début. Maintenant, ils veulent changer ça.
Oui, l'AS Monaco, coach Lamine, c'est simple. Ils sont, pour l'instant, ils sont invaincus. Ils rentrent parfaitement, effectivement, dans ce championnat de Ligue 1, en montrant aussi qu'ils ont des qualités. Ils sont là pour jouer un petit peu les troubles faits.
Parce que leur ambition, on parle d'ambition d'être sur le podium. Hein.
C'est ce que je dis, ils ont changé d'esprit.
Et là, et c'est pas pour rien effectivement que pour le moment ils sont invaincus, donc leurs ambitions elles sont à la hauteur peut-être aussi de leur stratégie de recrutement qu'ils ont réussi à mettre en place avec l'entraîneur.
Ils ont mis des jeunes,
ouais, beaucoup de jeunes, la confiance,
etc. Ouais.
Bons jeunes,
de très bons jeunes, ouais, exactement. Oui.
On a toujours Ben Yedder en attaque, donc on a Cheikh Fabregas qui est resté, coach Lamine. Et c'est sûr, peut-être autour de cet effectif-là, que, comme tu as dit, Monaco souhaite construire en fait une équipe solide avec de jeunes joueurs qui ont la possibilité aussi d'apporter, comme on l'a pu le voir, Jelson Martins ou d'autres, Diop, qui a évolué du côté gauche de Cheikh Fabregas. Je pense que c'est une bonne chose.
C'est lui qui marque le premier but, d'ailleurs.
Ouais, c'est lui qui a inscrit le premier but, exactement. Je pense que c'est une bonne chose pour Monaco, et Monaco peut effectivement jouer les premières positions dans ce début de championnat. Et je serais pas étonné si en fin de première partie de championnat, c'est-à-dire au mois de décembre, coach Lamine, on les voit sur les cinq premières places.
Mmh. Ouais. Messieurs, il nous reste 10 minutes exactement pour parler de ce classico. Alors donc comment vous avez vu ça de loin, ce classico, Adama, depuis Barcelone?
Oui.
Est-ce que c'est le même classico que Real Barça?
Non, mais il faut savoir mettre chaque match dans son contexte.
Ouais.
Oui. Pour nous, le classico espagnol est différent du classico français, ouais. Mais quand même, le classico français reste un classico qu'il faut vraiment aussi respecter. Parce qu'on a vu depuis combien d'années, les Parisiens n'avaient pas du tout d'adversaire. Ils faisaient un aller-retour avec Marseille. Ce n'était plus le même choc. Il y a de cela 10, 15 ans en arrière. Doyen Willy pourra me rafraîchir la mémoire.
Ouais.
Je pense que cette rencontre de ce week-end était beaucoup attendu à travers le monde. Il a été suivi du côté de l'Espagne. Il a été suivi pourquoi? Parce qu'il y a pas mal d'anciens de la Liga qui sont du côté des parts et d'autres dans les deux clubs. Et donc, on a vu que quand vous arrivez à faire la somme des Latinos, ça veut dire des Sud-Américains, et des Espagnols, des Hispanistes dans les deux équipes, vous avez la moitié, presque la moitié d'un effectif.
Ouais. Mmh.
Et l'esprit qu'on voit du côté de la Liga, cet esprit n'est pas trop reconnu du côté de la Ligue 1. Donc, c'est un esprit où on joue au football, mais en même temps, on provoque. Mmh. Donc, à travers ce classico, on a vu réellement le vrai visage des Sud-Américains qui, et ceux qui ont eu la chance de jouer dans les compétitions, dans les sélections contre ces sélections sud-américaines, ils pourront vous dire que c'est des bons joueurs, mais c'est des gros provocateurs. Donc on l'a vu hier par rapport à ce classico.
Justement, Doyen, et comment vous avez vécu ça? Est-ce que vous pensez que c'était un véritable classico? Est-ce que vous vous attendiez à tout ce qui s'est passé autour de ce match-là?
Oui. Pourquoi? Parce que, l'OM venait jouer le match de sa vie. Et ça, les responsables de PSG devaient s'attendre à ça.
Ouais.
Donc, ils ont minimisé l'OM. Et ils l'ont payé cash. Parce qu'ils pensaient qu'un Neymar qui ne s'est pas entraîné, et s'appelant simplement Neymar, peut venir sur le terrain et faire de la différence. C'est l'erreur fondamentale, ça.
Oui, mais s'il avait joué, oui.
Oui, mais il ne s'est pas entraîné. C'est vrai qu'il pouvait le faire, mais
il s'est entraîné 2 jours. Mais à la limite, c'est suffisant si tu joues 75 minutes et que tu joues ton football.
Oui, mais c'est suffisant.
Mais on a vu Neymar essayer de dribbler 5-6 personnes.
Oui, mais c'est normal. Et quand il est là, on lui dit que c'est à lui de faire la différence. Quand l'équipe est en danger, il va se prendre les choses en main. C'est une erreur. C'est cette façon qu'on a fabriqué cette équipe-là. Ouais. C'est pas la faute de Neymar, ça. C'est ceux qui dirigent cette équipe-là qui ont fait cette erreur. Comme les dirigeants de Barcelone, ils ont fait les mêmes erreurs.
En disant,
ça se joue à 11, le football. Donc le problème qui s'est posé hier, les Parisiens ont oublié que l'OM en face n'est plus le même OM parce qu'ils ont, ils ont Villas-Boas sur le banc. C'est lui surtout qui a piégé le PSG.
Oui, ouais. en faisant une autre tactique.
Mais tranquille.
Un faux neuf, etc., etc. Oui.
Ouais. Non, moi je pense que Lamine c'était effectivement un PSG OM intéressant sur le début de la rencontre. Après, beaucoup de défis physiques, beaucoup de déchets techniques du côté du Paris Saint-Germain. Tu l'as dit. On a plutôt essayé de jouer un petit peu avec, tu sais, des dépendances Neymar, oui. qui loupait ses petits ponts. Il tentait des choses que on comprenait pas trop en fait, alors qu'il était effectivement revenu avec ses coéquipiers. Je pense qu'il aurait pu apporter plus. De l'autre côté, Marseille, eux, ils ont essayé de jouer avec leur qualité, avec un Steve Mandanda qui était bien en place derrière. Ah ouais. Défensivement, ils ont plutôt
un grand Steve hier.
Ah ouais, 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 ouais. Ils ont plutôt bien joué. L'opportunité aussi de but de Florent Thauvin, c'était intéressant. Après, je pense que le Paris Saint-Germain, coach Lamine, doit s'en vouloir qu'à lui-même, oui. Parce que à la fin de la rencontre, tout ce qu'on a pu voir, tout ce qu'on a vu, il y a des choses auxquelles il faut pas répondre, il y a des provocations auxquelles il faut pas répondre. Et c'est surtout, moi, je le répète toujours, attention, hein, j'incrimine personne, mais je dis toujours, coach Lamine, qu'il faut penser aussi à ceux qui nous regardent, les enfants, les jeunes. C'est un début de saison, on est dans une ambiance un petit peu compliquée.
Ouais, mais c'est deux minutes quand même.
Il pensait gagner le match.
C'est deux minutes. Oui, mais c'est deux minutes où il y a eu plein de cartons rouges qui sont arrivés. Ouais. Une fin de match sous tension, coach Lamine. Franchement.
C'est pas propre ces deux minutes-là.
Un côté ridicule où on
va écouter Tuchel. On va voir.
Mais peut-être le joueur marseillais.
Marseillais, Rongier
qui s'est exprimé à l'issue de la rencontre, justement, où il a donné son avis avec objectivité, on va l'écouter justement.
Mais oui, mais justement.
Ah ouais, bah, je pense qu'aujourd'hui on a réussi à faire ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire rester en bloc bas, parce qu'on se souvient l'année dernière, voilà, on a essayé de les presser haut et ça n'a pas fonctionné. Donc on a complètement changé notre tactique. Ça a plutôt bien fonctionné aujourd'hui. Après, voilà, c'était peut-être pas du très beau football pour les spectateurs avec tout ce qui s'est passé, mais en tout cas nous le contrat est rempli. Le groupe vit bien. Je pense que c'est plus une surprise, tout le monde le sait. Après, là, voilà, c'est une grosse performance. C'est jamais simple de gagner ici au Parc des Princes. Ça fait deux victoires en deux matchs pour nous. Le championnat va être très très long, mais en tout cas, on est très content de cette victoire pour nous et aussi pour les supporters.
Donc, il dit, on était venus chercher ce que nous voulions. En fait, ils ont réellement piégé le pays.
Oui, c'est ce que je disais.
Bien donc, sûr. Quand il explique que nous étions en bloc bas, ouais. Quand on était venu. Non, on a joué en bloc bas parce que quand on était venu, on voulait mettre la pression, ouais. Et ils les ont tapés dans le dos, ouais. Première mi-temps 4-0, ouais. Donc finalement c'est vrai que Marseille a trouvé la bonne situation, quoi. Ouais.
Mais c'est là on voit l'efficacité et l'espérance des grands coachs.
Oui, c'est ce que je disais, ouais, Villas-Boas.
Oui, bien sûr, Villas-Boas.
Ouais, il a bien mis il a mis son équipe en place, mm-hmm. Et bloc bas. Et pour les prendre en compte, ils ont bien réussi.
Exactement. Alors, tout ce qui s'est passé sur les deux dernières minutes, on peut dire que ça, bon, ce sont des faits de
jeu. Non, ce n'est pas des faits de jeu. Ce n'est pas digne d'une grande équipe comme le PSG, ou bien soi-disant grande équipe que le PSG, parce que les joueurs ne peuvent pas réagir comme ça. Ils perdent un match, ils pensent, le fait de perdre comme contre le... Et ils ont senti que c'était le classico vers la fin du match, alors. C'est ça le problème.
Est-ce qu'on a le temps d'écouter?
Oui. De l'avis du côté de l'Espagne, mm-hmm. On a trouvé ça quand même un peu comme du gâchis vers les cinq dernières minutes.
Ouais.
Je pense que c'est un match qui a été âprement disputé de deux côtés. Il y a un qui est venu avec son système, mm-hmm. Bien mis en place et bien appliqué. Et l'autre équipe en face se croyait toujours supérieur,
c'est ça,
et qui n'a pas pu vraiment dérouler.
En fait, c'est ça un jeu. C'est ça un classico.
Il y a eu la frustration quelque part.
Oui, le classico, c'est ça en fait, un classico où il y a une intensité physique,
oui.
Une intensité morale. Ouais. Et hier, c'est peut-être Marseille,
ouais,
qui a répondu. Oui,
mais
ça.
Un vrai classico, c'est de sentir que l'adversaire a le même niveau que soi.
Exactement.
De ne pas penser qu'on va mettre un Neymar et hop, on gagne le match. Mm-hmm. C'est ça l'erreur du PSG.
Alors, on a beaucoup parlé de racisme, on a beaucoup parlé de beaucoup
et
de choses.
Oui, moi j'ai vu ça.
Ça, de toutes les façons, on ne peut pas savoir. on va attendre mercredi, il y aura un conseil au niveau de la Ligue de football, la fédération.
Moi j'ai peur.
Mais je pense que toi qui connais la mentalité sud-américaine,
j'ai peur.
Entre Argentin et...
C'est ça. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'on aille voir Neymar pour calmer le jeu. Parce que les Brésiliens vont prendre ça à cœur déjà, parce qu'on voit que Neymar, il ne s'arrête pas. Il continue à tuer autour de ça.
Ça continue sur les réseaux sociaux,
mais c'est
ça
clair.
S'arrête pas.
Parce que ça ne va pas s'arrêter. Ça date de... Moi, j'étais même pas né. C'est une vieille histoire entre l'Argentine et le Brésil. Si jamais ce truc-là... Ben j'ai très peur de ça. Je ne sais pas comment on va régler cette histoire. Parce que j'en sais quelque chose. Quand on va au Brésil, on l'idée que les Brésiliens ont des Argentins, mais c'est assez grave.
Mmh. Donc on risque de se retrouver, si c'est avéré, bien sûr.
Ah ouais, c'est grave.
C'est Neymar qui le dit, l'autre dit non.
14 cartons jaunes, 5 rouges.
Ouais, c'était...
Moi, je préfère qu'on calme le jeu dès maintenant.
Mais là,
il faut calmer le jeu. Nous sommes en football. Chacun doit prendre sa part des responsabilités. Chacun doit prendre ses sanctions.
Ouais. Oui, voilà. ça c'est clair. Mais il ne faut pas que ça sorte du stade. C'est ce que je suis en train de dire.
Voilà. En tout cas, on va suivre ça de près.
Alvaro, quand il avait eu le choc contre Messi, c'était à Cornellà de Prades, j'étais présent. Mais les deux ont rigolé. Ils ont rigolé et ça restait sur le terrain.
Bon,
et à la fin de la rencontre, les deux, ils ont mis la balle à terre.
On verra bien, il nous reste que 30 secondes, messieurs.
Ouais,
on va suivre ça à partir de lundi prochain. On saura si, effectivement, cette histoire de racisme ou quoi que ce soit est avérée à ce moment-là. On verra par rapport à la...
Sur les sanctions.
Au niveau des sanctions. Et à ce moment-là, ben, écoutez. Voilà, on se retrouve lundi prochain. Messieurs, dames, merci beaucoup. Merci Adama, merci Doyen Willy. Et puis merci Hakim. À bientôt.
Tout feu, tout foot, l'émission 100% foot sur Africa Radio.